You are listening to Friends of Europe's podcast. Don't miss our debates on global and European issues that span political, economic, social, and environmental challenges, and follow our website at friendsofeurope.org.
You've been in your role as mayor for about 3 years?
Yes.
From your perspective, when you first came to be a mayor, what were the immediate challenges you experienced?
Donc, quand moi je suis devenue bourgmestre il y a 3 ans, il y avait beaucoup de challenges parce que je succédais à un homme, à un bourgmestre qui avait été là pendant 20 ans et à un pouvoir politique qui était en place depuis 70 ans. Et donc, ça a fait un petit séisme à Molenbeek. Et j'ai eu plusieurs challenges. D'abord, rassurer le personnel communal, parce que ce personnel communal s'est dit « Ah, mais un nouveau bourgmestre, on va avoir de nouvelles exigences. » J'ai senti une certaine hostilité de la part de membres du personnel qui avaient peur du changement. Parce qu'il fallait moderniser l'administration. Ça, c'était un des challenges, c'était un défi, moderniser cette administration qui fonctionnait encore de façon très lente, très traditionnelle. Et puis alors aussi rassurer les gens, notamment ici dans le centre de Molenbeek. Parce que vous avez à Molenbeek 100 000 habitants et des différents quartiers. C'est vrai que le quartier où moi j'habite, c'est plutôt un quartier belgo-européen. Et ici, c'est plutôt un quartier belgo-marocain. Hein, beaucoup de personnes d'origine marocaine, essentiellement des personnes d'origine marocaine. C'est ça le problème aussi de ce quartier, c'est qu'il n'y a pas de la mixité. Quand moi je parle de la mixité, c'est bien quand vous avez des Grecs, des Portugais, des Espagnols, des Turcs, des Marocains, des Belges. Mais quand vous n'avez que des Marocains, la minorité devient majoritaire et elle fait moins d'efforts. Donc la difficulté de ce quartier ici, c'est qu'on vit beaucoup entre soi. Et donc, il a fallu aussi rassurer et dire, mais vous savez, moi, je suis la bourgmestre de tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis une femme, ce n'est pas parce que je viens d'un autre quartier que je n'ai pas de la... voilà, que je n'ai pas de la sympathie pour vous. Donc ça, c'était aussi... et alors, remettre de l'ordre. Parce qu'à Molenbeek aussi, chacun fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas de respect des règles. Alors, il n'y a pas de zone de non-droit à Molenbeek. Hein. La police, elle va partout. Mais quand je parle du respect des règles, c'est comment on stationne, à quelle heure on sort ses poubelles, à quelle heure on ferme le magasin, est-ce qu'on met les enfants à l'école. Donc, c'est un petit peu, voilà. Chacun vit, c'est plutôt du laxisme, du laisser-aller. Pas suffisamment de normes, de règles de vie communes. Donc, ça, c'était aussi un troisième challenge. Mais à ce moment-là, la question du radicalisme ne se posait pas. On savait qu'à Molenbeek, il y avait du fondamentalisme. Et ce qui était important, c'était de se dire, là aussi, c'était l'intégration. Donc, de se dire que cette partie de la population, ici, dans le centre de Molenbeek, où il y a grande densité de population, beaucoup, je dis toujours, grandes familles, petits logements, parce qu'on a subdivisé les immeubles pour mettre un maximum de personnes. Et les gens qui sont venus, il y a eu beaucoup de monde qui est venu depuis les années 70, alors que l'immigration était arrêtée sur le plan économique, mais parce que c'est du regroupement familial. Il y a eu beaucoup de regroupements familiales. Et donc, on n'a pas, par exemple, les gens qui venaient en Belgique, on ne leur a pas dit, tiens, il faut apprendre le français, il faut apprendre... le flamand, il faut faire une formation, il faut expliquer comment fonctionne la commune. Il n'y a pas eu d'explication. On a laissé les gens entre eux. Donc, il y a eu une grave erreur. Donc, là aussi, il faut maintenant faire participer les gens pour que la vie sociale et culturelle de Molenbeek, ça ne passe pas à travers uniquement la mosquée et l'entourage. C'est aussi un challenge important. Donc, il y avait beaucoup de challenges à rencontrer quand je suis devenue bourgmestre. Mais la question du radicalisme violent, on n'en parlait pas encore. On en a parlé que récemment, quand il y a eu en 2013, 2014, quand les jeunes ont commencé à partir. Mais là, on se dit, ah, c'est... Voilà, comme il y en a qui sont partis en Afghanistan, comme il y en a qui sont partis en Tchétchénie, mais maintenant, il y en a qui partent en Syrie, pour, par idéal. Et puis, ce n'est qu'après qu'on a constaté que de l'horreur de ce qui se passait en Syrie, en Irak, des crimes, des exactions. Et on a vu qu'il y avait des jeunes, des individus de Molenbeek et d'autres communes qui participaient à des crimes de guerre. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire ben, il faut voir qui part avant de s'occuper que des mineurs. Et comment les empêcher de partir ? Donc là, on a engagé un agent, un porteur de projet contre le radicalisme pour voir comment on pouvait empêcher les jeunes de partir. Les contacts avec les familles, la formation dans les écoles, la sensibilisation des responsables, enfin du personnel communal, des acteurs sociaux, culturels. Donc, pour dire, tiens, comment on peut arrêter ça ? J'ai rencontré les... Parce qu'en janvier 2015, il y a eu une fusillade à Verviers. Là aussi, c'était des individus de Molenbeek qui voulaient préparer un attentat contre le commissariat. Donc on s'est dit quand même, des jeunes qui ont grandi à Molenbeek. Et ces jeunes, ce n'est pas tous des gens précarisés. Hein. Alors c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de précarité. Il y a beaucoup de familles... Enfin, il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup de chômage. Mais... Les jeunes qui se sont radicalisés, ce n'étaient pas tous des pauvres. Hein. C'était des gens qui parfois avaient la famille. Quand on parle de la famille Abdeslam, ils avaient un logement social. On avait proposé du boulot. Ils avaient des propositions de travail. Il y en a un qui travaillait pour la commune. Donc, Abaoud, son père était commerçant à Molenbeek. Hein. C'était un commerçant qui était bien dans ses affaires. Hein. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment... on pense que ce sont des jeunes qui voulaient paraître, avoir des facilités, et que c'est pour ça qu'ils sont tombés, voilà, que la société ne leur a pas donné les facilités, puis ils sont tombés dans la délinquance, et puis même cette petite délinquance ne les a pas satisfaits, et puis ils sont tombés dans le radicalisme qui les valorisait plus. C'est comme ça qu'on analyse le phénomène, plus que par la question de la précarité. Mais aussi par une certaine ambiance. Puisque ici, dans le quartier ici, on a une majorité de personnes d'origine marocaine et aussi un islam très conservateur. Un islam qui vient du Moyen-Orient, du wahhabisme. Hein. C'est pas l'islam, malheureusement, c'est pas suffisamment un islam qui a été qui vient du Maroc. Et donc, finalement, il y a un radicalisme auquel les gens se sont habitués. Bon, on ne se pose pas de questions. C'est comme ça. Il y a une contamination, une contagion.
How important a role do you think the council, the municipality, is responsible for the ambiance in the area?
Mais c'est plusieurs. Je pense que la responsabilité elle est au niveau communal, mais aussi au régional. Communauté, hein, tous les niveaux de pouvoir en Belgique, parce que le problème du radicalisme ou du fondamentalisme d'abord, il est apparu d'abord à Molenbeek dans les années 90, mais tout le monde savait, mais enfin beaucoup savaient, se rendaient pas compte que c'était aussi grave. Il fallait vivre à Molenbeek pour se rendre bien compte que c'était très grave. Mais moi, par exemple. Comme j'ai toujours vécu ici, j'ai dit, hein, il faut un parcours d'intégration. Hein. Comme j'ai dit, il faut accueillir les gens qui viennent ici. Il faut leur donner des cours de langue. Et à l'époque, quand on a fait cette proposition en 2000, pas question. Hein. Non, l'immigration, c'est naturel. Les gens, ils vont s'adapter. Il ne faut pas de racisme, pas d'islamophobie. Et donc, voilà, on n'a pas voulu, surtout du côté francophone, pas du côté flamand, mais du côté francophone, on n'a pas voulu prendre ses responsabilités par rapport à ce phénomène. Maintenant, c'est un des aspects. Hein.
But it's not the phenomenon. So it's pas le phénomène de radicalisme. It's the ambiance. Unemployment, communities being housed in different areas, not making potentially an effort to mix communities. getting investment from the outside for jobs locally, making it easier for businesses to start up, for mm-hmm. example. It's
oui, oui.
It's that that's the ambiance I'm talking about. Because when
on
you
on n'a pas fait d'effort parce que je pense que on n'a pas demandé enfin mm. on n'a pas eu d'exigence non plus à l'égard des gens parce que dans les années 70-80 le tissu social était suffisamment fort, hein, la situation économique était encore suffisamment bonne que pour dire aux gens mais vous n'avez pas de travail mais c'est pas grave parce que vous allez avoir un logement. Parce que vous allez avoir une allocation. Donc il n'y avait pas. Et le travail, ce n'était pas un but en soi. Maintenant, la situation économique est beaucoup plus difficile. Et au début, c'était. Le nombre de personnes est devenu de plus en plus important. Il y a eu, pour Molenbeek, je crois qu'on a eu une augmentation de 30% de la population en 20 ans. Et surtout dans ces quartiers-ci. Un boom. Beaucoup d'enfants, beaucoup de nouveaux arrivants. Et ça, on n'était pas préparé. On a laissé faire. On a vraiment laissé faire.
And education, in terms of schools, the schooling, there's a question of the quality of education that's available locally and the impact.
Non, je pense que les écoles communales, on a beaucoup d'écoles communales et elles font un bon travail pour l'enseignement de 3 à 12 ans. La maternelle et la primaire, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais la difficulté, c'est qu'il y a des écoles où ce sont des écoles de quartier. Ben, l'école de quartier, ben, dans certaines écoles, il n'y a pas de mixité. Puisque dans le quartier, il n'y a pas de mixité, dans l'école, il n'y a pas de mixité. Et je pense que le problème, il est aussi en humanité. Une fois que l'enfant a 12 ans... Par exemple, on a une grande école ici, un grand Athénée à Molenbeek, Athénée Royal de Molenbeek. Mais les parents veulent pas mettre leur enfant là. Je pense qu'elle devrait développer des projets pédagogiques pour attirer des jeunes. Par exemple, maintenant, nous, on a ouvert une école d'immersion, hein, rue de Beaune. Ben, je dis, mais peut-être que vous auriez ouvert une section d'immersion pour pousser des jeunes à venir. Après, ils ont terminé là leur primaire, ben voilà, qui continue, tu vois, vers des projets pédagogiques en lien avec la population qui soient intéressants pour les jeunes, quoi, pour valoriser cette école. Parce que c'est paradoxal ici, il n'y a pas suffisamment d'écoles, de places dans les écoles, mais l'école du quartier le plus peuplé, il remplit pas parce que les parents disent non, j'ai pas envie.
Thank you very much for your time.
I'm sorry.